En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci à tous d'être là et de nous aider à animer ces deux jours ou ces trois demi-journées. Première recommandation avant que j'oublie, chaque fois que vous prenez la parole, vous appuyez sur le bouton parce que tout est enregistré, l'expérience prouvant que ça peut être très utile que d'avoir l'enregistrement des diverses interventions. Alors, merci donc d'être là. Je ne dirai que deux mots sur le programme, non pas d'aujourd'hui et demain. Philippe Boulanger le dira mieux que moi, mais sur le projet d'ensemble à l'intérieur duquel ces journées sur guerre et géographie figurent. Alors, j'avais proposé il y a quelques années, c'était il y a trois ans, je crois, à la Fondation Del Duca, de l'Institut, donc il faut soumettre un projet au chancelier qui est directeur de la Fondation, et les projets ne peuvent émaner que d'académiciens de telle ou telle académie, en l'occurrence, Académie des sciences morales et politiques. Donc j'avais proposé de traiter l'homme et la guerre, ou bien guerre et société, au départ c'était guerre et société, et d'essayer de traiter aussi bien qu'il est possible ce thème que je crois tout à fait fondamental pour comprendre les histoires humaines, en procédant par l'organisation de colloques de trois jours, quatre colloques, il y en a trois qui ont eu lieu, l'un sur le premier, guerre et politique, un deuxième, guerre et religion, un troisième, la guerre civile, et le dernier se tiendra fin janvier et portera sur guerre et histoire, d'un côté. Et d'autre part, une douzaine de journées séminaires, journée double, sur des thèmes un peu plus précis, par exemple, guerre et droit. Il y a eu, en fait, deux fois deux jours sur les penseurs de la stratégie. Il y en a eu sur où il y aura guerre et bataille, guerre et technique, guerre et... Enfin, bon, toute une série. Et donc, il me paraissait évident, j'ai une formation d'historien, et à l'époque où on préparait l'agrégation d'histoire, au lendemain du déluge, on faisait tout de même pas mal de géographie, et donc il m'a paru évident qu'il fallait introduire guerre et la géographie dans ce cadre-là. Et comme c'est tout de même un programme extrêmement lourd, les colloques, je m'en occupe tout seul, mais pour les journées d'études, je me mets en quête de quelqu'un qui peut m'aider, surtout à trouver les compétences susceptibles de traiter au mieux le thème retenu. J'ai trouvé Philippe Boulanger par l'entremise de mon collègue et confrère, d'ailleurs Jean-Robert Pitt, qui m'a dit que Philippe Boulanger était l'homme de la situation et de l'objet, puis vraiment du sujet et de l'objet. Et donc, voilà, ce qui vous explique pourquoi vous êtes ici. Sous la houlette, davantage de Philippe Boulanger que de moi-même, parce que M. Boulanger est à ce point dynamique qu'il s'est pratiquement occupé de tout. Il a la responsabilité entière de cette journée et demie. Et je lui donne tout de suite la parole. Donc, vous n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton.
Bien, je vous remercie, M. Béchler, de cette présentation. Je tiens aussi à vous remercier très chaleureusement de nous accueillir pendant ces deux jours dans ce lieu exceptionnel que je découvre comme certains de mes collègues. Donc un grand merci également d'accorder de l'importance à la thématique de la géographie par rapport à la guerre, que l'on connaît d'une certaine manière tous. Je sais que vous avez été contacté parce que vous êtes spécialiste d'une certaine manière de cette thématique extrêmement large. Donc merci de nous accueillir dès ce matin pour pour ces deux jours, ces trois demi-journées plus exactement d'échanges et de rencontres. Je souhaite vous remercier également de votre présence, d'avoir accepté de participer à cette manifestation. Certains de nos collègues vont arriver dans la matinée, donc ce qui explique que la table comprend encore quelques chaises vides, mais je sais qu'ils vont arriver dans le courant de la matinée. Alors la relation entre la guerre et la géographie est une problématique forte, hein, comme nous pouvons l'imaginer, forte dans l'histoire des sociétés. Les premiers traités de stratégie mentionnent l'influence du milieu, l'influence du facteur géographique, pas de la géographie puisque le mot est plus contemporain, plus récent. Depuis la guerre froide et notamment depuis les attentats de New York de 2001, nous assistons à une valorisation de la prise en compte du facteur géographique. Et le livre blanc français sur la défense et la sécurité nationale de 2008, réédité, renouvelé en 2013, mentionne bien l'importance de cette prise en compte du facteur géographique. Le cinquième pilier stratégique de notre doctrine précise bien qu'il faut développer la connaissance et l'anticipation. Il est mentionné dans d'autres paragraphes, la place de la géographie, la connaissance géographique dans les opérations militaires. Alors ce besoin de la géographie, la connaissance géographique existe de tout temps, depuis l'Antiquité, nous le savons. Cela a pu être pris en compte de manière plus ou moins empirique, selon les acteurs, selon les stratèges. On a plusieurs exemples qui montrent que la géographie est vraiment un des éléments qui parfois n'est pas pris en compte, justement, ou alors est pris de manière très éloignée dans la préparation de la manœuvre. Mais en fait, nous savons qu'aujourd'hui, c'est un élément extrêmement important. Que la définition du milieu, la définition de l'espace, la prise en compte de la spatialisation est un élément fondamental. Hier soir, je dirigeais la dernière séance du séminaire Géospatial Intelligence à l'ENS, séminaire que j'organise depuis 2 ans, un séminaire mensuel, et l'intervenant justement insistait bien sur cette idée de spatialisation prise en compte par les services de renseignement, qui est un élément relativement récent. Dans la façon de travailler, dans la façon de concevoir des produits cartographiques, c'est un élément relativement récent, donc qui date, d'après l'intervenant, qui était Paul-David Régnier, ancien directeur de la section d'analyse géospatiale à la DRM, de la fin des années 90. Alors, la géographie est toujours prise en compte depuis l'Antiquité, mais en même temps, avec quelle méthode ? On se rend compte que plus le temps avance et plus on insiste justement sur la méthodologie géographique. Alors la problématique de cette manifestation, justement, nous amène à nous interroger sur la place, l'influence du facteur géographique dans l'histoire des guerres. Comment certaines guerres ont-elles amené à moderniser la pensée, l'outil géographique à travers les siècles ? C'est une problématique extrêmement large qui se veut œcuménique, rassemblant historiens et géographes principalement, pour essayer d'en savoir un peu plus. Évidemment, on ne peut pas tout dire sur cette problématique très large, mais cette manifestation qui est assez unique, il n'y a pas eu de manifestation à ma connaissance sur cette thématique-là à l'Université française, eh bien, nous permettra d'en savoir un peu plus sur cette place du facteur géographique dans les batailles, les guerres spécifiquement. Alors, 4 axes de réflexion sont engagés, comme vous le voyez sur le programme qui est sous vos yeux. Les principales mutations de la géographie militaire aujourd'hui. Donc, nous commencerons ce matin par ce premier axe. Manœuvre stratégique et géographie. Conception et pratique de la géographie par le militaire, donc on est dans la conception de la géographie par le militaire, la représentation du facteur géographique de la guerre, dans la guerre, à travers la cartographie et les témoignages des combattants. Et on va commencer donc tout de suite ce matin par la thématique d'une géographie militaire en mutation aujourd'hui, en commençant par un domaine extrêmement novateur et nouveau dans la recherche universitaire, qui est celui de la cyberguerre et du cyberespace. Et j'ai le plaisir de donner la parole maintenant à M. le Général Philippe Wolff et à mon collègue François Pernaud sur cette thématique cyberguerre et géographie.
Bien. Merci. Donc, allons-y. Enfin, bon, nous sommes entre nous, donc c'est très libre. Et si vous voulez intervenir, mais enfin, il n'y a aucune raison de les interrompre, vous pouvez, enfin, considérez-vous comme chez vous et comme bénéficiant d'un accueil informel. Voilà. Bien, en général, nous vous écoutons.
Effectivement, ça commence mal. Merci à vous de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Merci à Philippe Boulanger pour effectivement avoir réuni autant d'intervenants autour de ce thème qui, effectivement, je suis d'accord avec ce qu'il a, tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Il n'y a pas eu, de journées d'études ou de petites manifestations sur guerre et géographie. Alors, la présentation que l'ingénieur général de l'armement Philippe Wolff et moi-même allons faire est une présentation donc à deux voix sur un sujet finalement, alors je ne sais pas si c'est novateur, mais en tout cas ça pose question, cyberguerre et géographie. Pour démarrer, je commencerai en disant que finalement, à l'heure effectivement de la cyberguerre, la question qu'on peut se poser, on va y aller directement sans faire de préambule, la géographie représente-t-elle encore un facteur clé à prendre en compte dans la guerre? Voilà, comme ça, c'est fait, c'est dit, et je crois que c'est le fil directeur de notre propos. Alors, évidemment, quand on parle de géographie, et il va falloir que l'on parle évidemment d'espace, de milieu, ça va de soi, et pour mieux comprendre le milieu où se déroulent ces guerres nouvelles, ces cyberguerres, je reviendrai sur le terme de cyberguerre, cyber quelque chose, etc., hein, bien sûr, qui sont des guerres de forme, sinon de nature nouvelle. Finalement, nous disposons, et c'est là-dessus que nous allons nous appuyer, depuis peu de sources d'une extrême richesse. Alors, je le précise tout de suite, comme ça, il n'y aura pas de sources ouvertes. Hein, d'accord, hein, on va pas, il n'y a pas de problème. On vous donnera même les références Internet si vous voulez les trouver, comme ça, ça ne peut pas faire mieux, qui sont évidemment les documents qu'Edward Snowden, enfin, je vous en doutais un petit peu, j'espère, pour ceux qui a rendu public. Bon, alors on peut discuter sur ces documents, mais bon. Et qui ont mis à jour, finalement, des pratiques massives de captation d'informations numérisées à des buts d'agression. Hein, on est dans la cyberagression, si vous voulez, grâce à des techniques souvent offensives d'une très grande diversité. Et ces documents Snowden, on ne peut pas faire l'impasse, même encore une fois, si on peut s'interroger dessus. Ça nous force à nous interroger. Ça nous force à nous interroger à plusieurs niveaux. Vous parlez de guerre et droit, ça nous force à nous interroger sur le droit et la guerre. Ça nous force à nous interroger sur la géographie, sur l'histoire, sur les techniques, sur les ruptures technologiques, sur les ruptures scientifiques même, j'irais même jusque-là, et bien d'autres choses. Alors, ça nous force à nous interroger. Existe-t-il une géographie du cyberespace? Et peut-on donner une définition géographique du cyberespace? Je cite, quand je dis « je », c'est nous, hein, c'est une communication à deux voix. Nous citons Daniel Ventre, qui écrit « Aucune définition ne fait aujourd'hui consensus. S'agit-il d'un lieu, d'un territoire, d'un espace? Est-il possible de cartographier, d'y délimiter des zones de souveraineté nationale ?» Fin de citation. Et il nous semble que le double enjeu du contrôle et de la maîtrise de cet espace est un défi, et que subir, finalement, une nouvelle géopolitique du cyberespace menace tous ceux qui ne parviendront pas à remporter ce défi, que l'on pourrait transcrire par cette formule démarquée d'Yves Lacoste. Si la géographie sert à faire la guerre, la géographie sert-elle à faire aussi la cyberguerre? Oui, c'est un petit peu facile, je prie de m'en excuser. Premier constat, on va le faire comme ça, et on va essayer de s'appuyer sur le maximum de documents visuels, parce que c'est abstrait, hein, le cyber et la cyberguerre. Donc, mais la cartographie est possible, et toutes ces cartographies-là sont dues à grande partie à Philippe, hein, qui vous expliquera comment on en est arrivé là. Premier constat. Je recommence pas. Le premier constat, aujourd'hui et demain, toute guerre, tout conflit de haute et de basse intensité, même si je ne valide pas trop cette formule, commence et commencera, se déroule et se déroulera dans le cyberespace, voire même uniquement dans le cyberespace. Et la guerre menée dans le cyberespace concerne à la fois le domaine militaire et le domaine civil. Ça, c'est l'autre caractéristique importante. La cyberguerre n'est en effet ni strictement militaire, ni civile et privée, mais elle marque, il nous semble, l'affrontement de technologies et donc d'industries duales. Deuxième constat, le cyberespace et la cyberguerre, on reviendra sur la définition, qui s'y déroule, se caractérise non seulement par un continuum des actes agressifs qui vont du cybervandalisme de manière graduée, du cybervandalisme jusqu'à la cyberguerre, en passant par le cybercrime et le cyberterrorisme, d'où finalement l'usage commode et élargi du vocable fédérateur cyberguerre. Mais aussi, ça se caractérise aussi par le très haut degré d'obscurité. Nous reviendrons beaucoup là-dessus. La guerre qui s'annonce et qui est déjà là, c'est la guerre de l'obscurité. Par le très haut degré d'obscurité qui règne dans cet espace et sur cette forme de guerre. Et ici, la question est la géographie de la cyberguerre est, il me semble, une géographie de l'obscurité, de l'ombre, du déplacement en nanosecondes, de l'ultra-vitesse. Troisième constat. C'est posé très tôt, et c'est un constat très géographique, en tout cas très spatial, c'est posé très tôt, et en premier aux États-Unis, la question du rattachement du cyberespace aux quatre espaces traditionnels du combat. Air, terre, mer et espace. Et certains responsables de la défense américaine ont pensé dans les années, au début des années 2000, qu'il était alors possible de rechercher une cinquième dimension cyber à l'espace. Ils ont même imaginé la possibilité de conclure un traité de cyberpaix, on est dans les traités, là, cette fois-ci, traité de cyberpaix analogue au traité de l'espace. Quoi qu'il en soit, les caractéristiques comparées des cinq espaces de conflit amènent finalement non pas à distinguer le cyberespace comme un cinquième espace, mais plutôt, c'est la position actuelle, hein, de pas seulement des États-Unis, mais les autres grands pays ont suivi, mais plutôt à rattacher ce cyberespace de façon transversale aux quatre espaces géographiques classiques de la guerre, quatre espaces géographiques de la guerre qui l'irriguent. Et la création, le 21 mai 2010, du cybercommand américain, sous commandement interarmé de combat, qui est subordonné à l'United States Strategic Command et qui est dirigé par le directeur de la NSA, marque une nouvelle ère de la cyberguerre. Alors, comment étudier la géographie de la cyberguerre? D'abord, la première chose, je crois qu'il faut dépasser, c'est une formule qu'on aime bien, il faut dépasser le storytelling capacitaire, parce qu'évidemment, quand on est dans le cyber, tout est storytelling, ça, vous saviez. En allant, et je dirais que le storytelling capacitaire, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà pour rechercher la capacité ultime qui permet sans doute à un État d'être cyberpuissant, c'est nouveau ça, et cyberagressif. Il s'agit de la maîtrise de la première, et là, pour ça, il s'agit de la maîtrise de la première des technologies clés, la science cryptologique. Et ce sera notre porte d'entrée pour affiner la géographie des cyberforces actuelles et futures. Et il nous semble en effet qu'aujourd'hui, la géostratégie du cyberespace est totalement dépendante de la science du secret, qu'est la cryptologie, un domaine de recherche où les mathématiques, bien entendu, sont reines. Or, et c'est notre hypothèse, il est remarquable de constater que la situation géostratégique actuelle de la cryptologie dite gouvernementale, celle qui protège les secrets stratégiques, répond à une théorie des cercles autour des États-Unis. Voilà la première géographie de la cyberguerre, selon nous. En effet, il existe tout d'abord un premier cercle. L'illustration que vous avez ici, c'est notre interprétation. Il existe un premier cercle qui est dominé par les États-Unis et qui regroupe les États qui participent au réseau d'écoute échelon prisme, à savoir la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est tout, c'est déjà pas mal. Et des États, donc, qui, à la suite d'accords remontant à plusieurs décennies, utilisent des produits et au moins des circuits cryptographiques américains. Un deuxième cercle comprend des États comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon, Israël ou la Suisse, qui ont la capacité de développer industriellement des produits cryptologiques et qui mettent en œuvre une cryptographie gouvernementale indépendante. Un troisième cercle d'États tels que la Belgique, l'Italie ou la Turquie s'en remettent quant à eux à l'OTAN pour leur cyberéquipement, même s'ils disposent souvent de capacités technologiques propres, de bonne qualité. Et enfin, il existe évidemment un quatrième cercle d'États, les pays de l'ancien bloc de l'Est, l'Iran, l'Irak, etc., qui se fournissent sur un marché qui ne cesse de s'étendre, mais à propos duquel on ne peut pas garder la maîtrise nationale, on ne peut pas parler de maîtrise nationale, faute d'industrie informatique et électronique locale suffisante. Et il est intéressant ici de constater et de souligner que cette théorie des cercles géographiques, qui ne représente pas une suite logique de continuité géographique, il n'y a pas de logique de continuité géographique sur ces quatre cercles. Cette théorie des cercles géographiques est complètement confirmée par les documents Snowden. Elle est complètement confirmée par les documents Snowden, lesquels documents permettent de tracer d'une manière très proche de l'hypothèse et de l'analyse que nous venons de développer des espaces concentriques d'État autour des États-Unis en matière de renseignement, même si les coopérations effectives sont difficiles à attester. Le premier espace vu par les documents Snowden, c'est l'alliance majeure des Five Eyes, sans l'accent, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, donc on retrouve le premier cercle dont je parlais tout à l'heure, et puis vient l'espace des Nine Eyes, c'est-à-dire les cinq précédents, plus, si on en croit ces documents, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Norvège, suivi de celui des 14 Eyes, ou les Sergeant Seniors Europe, c'est-à-dire les neuf précédents, plus l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la Suède. Je crois qu'il faut noter ici le cas très singulier de l'Allemagne. On a beaucoup en parlé de l'Allemagne en matière de cyber, le cas très singulier de l'Allemagne, qui est à la fois une terre d'accueil de sites de la NSA, ça, voilà, maintenant confirmé même en plus par l'Allemagne, et qui est en première ligne dans les protestations diplomatiques à la suite de la publication des documents Snowden. C'est très fort, on est dans le double... Et enfin, il nous semble qu'on peut définir un quatrième cercle, un quatrième espace, celui des pays qui ont des accords avec la NSA, une trentaine, dont l'Autriche, la Pologne, la Grèce, la Turquie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Israël et l'Afrique du Sud. Deuxième point, quel modèle de cyberespace ? Comprendre la cyberguerre... oui, c'est toi, excuse-moi.
Je prends le relais. Tu prends le relais.
Désolé, pardon.
Bon, donc on a... C'est allumé ? C'est bon. Donc on a essayé de construire un modèle avec François pour mieux comprendre la cyberguerre et le milieu où elle se déroule. Donc on a essayé de penser une cybergéographie. Donc il faut se représenter classiquement le cyberespace comme un modèle en couches. Donc c'est d'ailleurs comme ça que s'est construit l'Internet. C'est le fameux modèle en 7 couches qui a d'ailleurs été conçu en France dans les années 70. Donc notre proposition de modèle va élargir ces abstractions techniques en essayant d'y inclure l'homme et le milieu réel. Alors en 1995, Martin C. Libicki définit l'espace informatique selon trois niveaux conceptuels, physique, logique et de la connaissance. Et aucun de ces trois niveaux n'a de résonance géographique. On a donc essayé d'aller un peu plus loin, donc pour mieux appréhender à la fois la complexification croissante du cyberespace et mieux comprendre aussi ce qu'on appelle l'obscurité numérique, qui est propice aux affrontements discrets. Alors une bonne base de ce nouveau modèle nous a été fournie par les documents Snowden. Donc c'est un modèle top secret en 5 couches retenu par la National Security Agency. Alors ces 5 couches, c'est le niveau des personnes non connectées, des personnes connectées, le niveau logique, le niveau physique et enfin le niveau géographique. Et nous y avons ajouté 2 couches transversales. Une première, c'est notre rapport, le temps, qui est très important dans ces sujets-là, et une autre couche transversale qui est la cybersécurité. Alors je vais essayer un peu de caractériser qu'est-ce qui fait que ces couches-là sont propices aux cyberaffrontements. Donc on va les prendre l'une après l'autre. La première couche, c'est celle des personnes non connectées. Elles sont 4,2 milliards, si j'en crois Internet, et elles illustrent la fracture numérique mondiale. Donc ces personnes qui ne sont pas connectées sont néanmoins impactées par le cyberespace, à la fois par leurs contacts, mais en étant aussi la cible de technologies de plus en plus invasives. Donc on les connaît, vidéosurveillance, drones, biométrie, tous les capteurs divers, les satellites d'observation. Ce sont des technologies de contrôle plus étroit de la société qui se développent très rapidement. Bientôt, on en sera au smart dust, aux poussières intelligentes. Ces personnes aussi sont l'objet de traitements massifs de ce qu'on appelle le big data, des traitements massifs, reconnaissance faciale et apprentissage automatique. Et ces technologies rendent possible une identification des personnes hors d'un état civil dûment contrôlé, à partir d'un nombre très réduit de captations. Deuxième niveau, c'est les personnes connectées. Elles sont 3 milliards. La plupart accèdent au net par des ordiphones. Et on va bientôt se poser la question est-ce qu'il faut mettre dans cette catégorie les robots humanoïdes ou animaloïdes qui sont en train de se développer. Alors cette deuxième strate de notre modèle est certainement une des plus sensibles aux actions de cyberattaque, que celle-ci soit intégrée ou non dans des activités plus larges de cyberguerre. Elle comprend également les sociétés privées qui construisent le cyberespace. Les géants du web sont peu nombreux. On parle souvent des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Il faut peut-être y rajouter Microsoft. Ces sociétés ont acquis une puissance formidable et leur concentration est aussi devenue un facteur de risque supplémentaire. Le président Barack Obama a déclaré le 13 février de cette année « Nous avons possédé Internet. Nos entreprises l'ont créé, l'ont développé et l'ont amélioré de telle manière que l'Europe ne peut pas lutter ». Déjà lors de la conférence mondiale sur les télécommunications qui a lieu à Dubaï en 2012, l'un des concepteurs français de l'Internet, Louis Pouzin, qui plaide pour une gouvernance élargie, n'a pu que constater cette balkanisation du web et cette mainmise dont seule peut-être la Chine s'émancipe par d'autres moyens. Un éclairage cru est apporté aussi par les documents Snowden sur les possibilités de manipulation des personnes connectées. Ça, c'est un ensemble de planches qui sont assez remarquables, qui montrent que les réseaux dits sociaux dessinent une toute nouvelle géographie humaine. Chaque internaute aujourd'hui est identifié par 94 critères dans ces documents-là, qui permettent d'y corréler 164 types de relations. Troisième niveau, le niveau logique. Alors ça, c'est un niveau bien connu, c'est les programmes, codes, microcodes, qui construisent les protocoles, les logiciels, les outils et les services du cyberespace. C'est dans cette strate logique que se développe principalement l'arsenal offensif de la cyberguerre. C'est quoi cet arsenal? C'est une combinaison de logiciels malveillants de toute nature qui trouveront d'ailleurs avec l'Internet des objets et la robotisation croissante des activités humaines de nouvelles cibles. Mais là où la géographie classique est bouleversée, c'est lorsque l'on comprend que celle du cyberespace de demain est mobile, mouvante, que ses acteurs, les lieux et les flux se déplacent sans cesse en quelques millisecondes. En effet, pour amplifier l'action de ces programmes malveillants et les diriger dans des affrontements plus globaux, il faut une puissance de frappe informatique, de préférence délocalisée, c'est ce qu'on voit sur cette planche Snowden, mais à capacité de contrôle maîtrisée. C'est ce qu'on appelle les botnets ou les réseaux de machines infectées qui ont débuté leurs méfaits en 2002. De fait, ces botnets dessinent une toute nouvelle géographie que l'on pourrait qualifier de fractale, c'est-à-dire il est bien difficile de la représenter sur la carte du monde, car aujourd'hui, même les machines de contrôle et de commande sont mobiles, sont nomades, se déplacent. Troisième, donc dans ce niveau, voilà, un exemple de planche qui montre que ces centres de commande se déplacent à travers le monde. Quatrième niveau, le niveau physique. Donc le niveau physique, c'est l'ensemble des machines, des composants, des baies. On peut y rajouter d'ailleurs les liens filaires, fibres optiques et cuivre, et les liens qui sont sans fil, les liens radio, avec leurs équipements spécifiques qui vont opérer dans le spectre électromagnétique. Les limites d'ailleurs de ce niveau de couche logique, avec la couche logique, sont floues et mouvantes. Il existe là aussi, dans cette couche-là, une géographie des fournisseurs de bases d'équipements numériques qui vont se caractériser par une cyberdiversité en berne, par un approvisionnement de moins en moins diversifié. Je ne prends qu'un exemple, seules les sociétés IBM aux États-Unis et TSMC à Taïwan détiennent aujourd'hui les savoir-faire physico-chimiques dans le secteur des fonderies électroniques, qui nous permettent d'avoir des circuits électroniques. Il y a une autre géographie du cyberespace qui est celle des grands équipementiers, des fabricants d'ordinateurs. Là encore, la vulnérabilité de ces produits est importante, car il existe désormais, on le savait déjà, mais on a la preuve, des pièges électroniques qui permettent de franchir presque tous les obstacles physiques. Dans les révélations Snowden, on trouve en particulier un catalogue ainsi que des photos, ça c'est tout à fait remarquable. C'est un atelier de piégeage de matériel intercepté durant leur chaîne logistique de livraison. Donc on va les piéger avant que ça soit livré au client final. Le niveau géographique, ça c'est une chose importante, c'est que l'idée qui sous-tend l'existence de cette couche, c'est que tous les équipements électroniques, et c'est tout à fait vrai, sont géolocalisables, et une concentration se met en place autour de ce qu'on appelle les centres de données, les data centers, qui vont concentrer toute la puissance informatique mondiale. Et si on va dans le spectre, dans la propagation des rayonnements électroniques, qui obéissent à des lois physiques, on peut aussi faire une cartographie de tout ce qui est sans fil. Donc c'est tout à fait possible. Alors ça, c'est un petit essai qu'on a fait avec François de reconstituer cette strate géographique sur une carte à partir des données disponibles, et parfois elles ne le sont pas, donc il faut les reconstruire, c'est un peu long. Donc elle présente un certain nombre de couches, donc elle présente les points d'interconnexion des réseaux de l'Internet. Internet, c'est un réseau de réseaux. Ça présente aussi les principaux réseaux sous-marins, les fibres optiques, ainsi ce qu'on appelle les stations d'atterrage. C'est les endroits où émergent les fibres optiques qui constituent ces réseaux sous-marins. Et une des principales vulnérabilités de la couche géographique réside d'ailleurs dans ces points d'échange Internet. On pourrait même tenter, mais on ne l'a pas fait parce que c'est l'objet de travaux ultérieurs, une anamorphose cartographique qui permettrait de redessiner les vraies frontières du cyberespace et aller plus loin, c'est-à-dire déformer cette carte pour prendre en compte, par exemple, les capacités de transmission, de traitement. Alors, il faut constater que la possession et le contrôle des réseaux sous-marins, je fais un petit zoom là sur cette carte, sur l'Europe, la possession et le contrôle des réseaux sous-marins devient aujourd'hui un enjeu majeur de géostratégie. Et d'ailleurs, une des premières décisions qui avait été prise par l'Alliance BRICS a été de construire un câble sous-marin qui relie la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil. Et on annonce la fin de cette construction pour la fin de cette année. Il resterait encore, on pourrait aller encore plus loin dans cette couche géographique, parler de la géographie du renseignement d'origine électromagnétique, le fameux SIGINT américain, qui s'intéresse aussi historiquement aux communications satellites. J'ai une petite image des communications satellites, donc ça commence à être pas mal encombré, ainsi que ses vulnérabilités en cas de cyberguerre. Alors nous y avons rajouté deux couches, ça c'est assez essentiel, c'est le niveau temps. C'est un facteur transversal qui est assez décisif. La vitesse, c'est un facteur clé de la cyberguerre. L'attaque doit être foudroyante pour surprendre le défenseur. Mais souvent, l'exploitation d'une attaque peut au contraire être volontairement très lente pour la rendre totalement invisible. Quand vous volez des documents, il faut le faire très lentement. Par contre, l'opération qui consiste à rentrer dans les réseaux, ça se fait très très vite. Alors, je prends un petit exemple, c'est en bourse, il y a déjà un affrontement de robots, c'est une guerre financière qui ne dit pas son nom. Une transaction va se faire en quelques microsecondes. Une formule veut d'ailleurs qu'une milliseconde gagnée dans ce domaine, c'est 100 millions de dollars gagnés. Alors, face à cet arme-temps, la seule parade est d'aller plus vite encore. Aussi, il y a des spécialistes, on voit ça sur la planche, mettent maintenant en équation ce qu'on appelle l'éconophysique. C'est une nouvelle branche de la physique qui vise à localiser physiquement des machines, des routeurs, du high frequency trading au plus près des salles de marché, qui elles sont virtuelles, afin de gagner du temps sur le temps. Donc on a inventé une petite formule, après le temps contre la géographie, c'est la géographie contre le temps. Donc c'est tout à fait nouveau. Enfin, notre dernier niveau, c'est le niveau cybersécurité. C'est une septième dimension dont l'objectif est de transcender l'ensemble des couches. C'est une dimension très sémantique, car ce qui est important dans les cyberaffrontements, c'est l'insécurité, laquelle va tirer profit des protections insuffisantes et d'un risque zéro qui est inatteignable, comme le prouvent d'ailleurs les mathématiques. J'aime, moi, démontrer souvent, je présente souvent le théorème du virus, qui dit que décider si un programme est malveillant ou pas, c'est indécidable. Donc, il y aura toujours des programmes malveillants dans le futur, de ce côté-là. Alors, on va essayer de valider donc, ce modèle en sept couches. On a pris deux exemples avec François. Donc, je vais lui repasser la parole. Une première, c'est la dimension cyber de la guerre. C'est une guerre éclair qui a opposé la Géorgie à la Russie en août 2008. Ça a été moins raconté, cette histoire-là. Et puis, je vais reprendre la parole sur un épisode de la guerre du chiffre contemporaine. C'est un choix subjectif, mais ça permet, je l'espère, d'illustrer un peu ce qu'on a essayé de modéliser. Donc, je passe la parole à François sur la guerre de la Géorgie.
Merci beaucoup. Vous avez vu qu'on a des diapos ultra récentes. Hein. On ne fait pas plus récent que TV5. Et, bon, bref. Oui, on a voulu valider notre propos devant vous par un exemple très concret. Vous allez me dire, parce que jusque-là, ce qu'on vous raconte, oui, mais est-ce que c'est de la guerre, tout ça? Mais si, c'est de la guerre. Parce qu'il n'y a plus de limite entre civil et militaire. Et en fait, tout commence par du cyberaffrontement. Et c'est ce qu'on voudrait montrer ici avec l'exemple de la guerre de Géorgie. Je fais très court, la guerre de Géorgie, août 2008, vous voyez un petit peu, etc. Et effectivement, ça fournit un excellent exemple d'accompagnement d'opérations de guerre classiques. Il y avait des chars russes, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ce soit une guerre qui ressemble à... Bon, bref, à une guerre, des exemples de guerre classique et des accompagnements cyber. Et en fait, la guerre de Géorgie, c'est peut-être le modèle type de ce qu'est un affrontement aujourd'hui entre États, ce que pourrait être un affrontement entre États, et sans aucun doute, et c'est, on pourrait même dire à coup sûr, dans le futur. Tout commencera par du cyber. Et les attaques classiques seront accompagnées par des attaques cyber. Alors, elle est présentée, nous on vous la présente, mais je crois qu'elle est aussi classiquement présentée comme ça, ce n'est pas une de nos découvertes, comme le premier conflit armé dans l'ensemble des espaces. Terre, air, mer, espace et cyberespace. Et depuis, il nous semble que toutes les guerres possèdent un pendant cybernétique. Et d'ailleurs, comme le montre d'ailleurs très bien, comme le prouve finalement très bien, c'est une sorte de preuve a posteriori et en négatif, sur les réseaux sociaux, les mots dièses, vous savez, on voit fleurir maintenant les mots dièses sur Twitter, hashtag hop Ukraine, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, hop Syria, hashtag hop Syria, etc., etc. Et ici, on peut reprendre les sept niveaux de notre analyse et vous verrez qu'ils se déclinent tous. Les personnes non connectées, dont parlait Philippe tout à l'heure, bah oui, le taux de connexion de la Géorgie, c'est à peu près 50%. Il est un petit peu inférieur à celui de ses voisins. Et la guerre d'août 2008 a commencé comment? Elle a commencé par des attaques venant d'où? Ah, on ne sait pas. Si, on sait maintenant, quand même, bien sûr. Des attaques ce qu'on appelle des attaques en déni de service. des attaques en déni de service qui ont ciblé prioritairement des sites civils, des sites opérés depuis Gorée, ainsi que des sites d'actualité locale dans les zones de combat, de façon à quoi ? De façon à, ça c'est la première notion de la nouvelle guerre, dégrader les relais de communication du gouvernement central de Tbilissi, démolir, démontrer son incapacité à rester souverain dans son cyberespace et prouver son impossibilité d'informer en temps réel les populations touchées par les tirs et les bombardements. Toutes les guerres commenceront comme ça. Alors, et ça a affecté les personnes non connectées. Pourquoi ? Parce que par ricochet, les personnes non connectées, dépendantes des nouvelles relayées par les personnes connectées, ont été touchées de la même manière. C'est-à-dire les 50% de connectés, finalement, peu importe, c'est 100% qui ont été touchés au bout du compte. Deuxième niveau, le niveau des personnes connectées, bon, là, c'est évident. Le blackout qui a eu lieu en août 2008, juste avant la première semaine, juste avant d'ailleurs les opérations, juste avant, une semaine avant les opérations. Le blackout du cyberespace au-dessus de la Géorgie, qui a dominé durant la courte période des combats, elle n'a pas duré très longtemps, hein, la guerre de Géorgie, a participé à la pratique et au désarroi de la population. Et les télévisions occidentales, et pas seulement occidentales d'ailleurs, ont relayé parfaitement ce désarroi et cette panique de la population. Ça a sans doute eu moins d'effet, ce blackout, que les armes traditionnelles, certainement. Mais l'analyse des acteurs présumés de cette cyberbataille permet de tracer quelques caractéristiques qui nous semblent valables pour toutes les guerres à venir. D'abord, première chose, la guerre du futur se traduit aussi par une porosité complète entre les acteurs. Des acteurs multiples, dont les objectifs sont principalement lucratifs, les cybergangs, les cybermercenaires, parce que ça existe aussi, les officines, des acteurs à but politique, les activistes ou les cyberpatriotes, et puis d'autres acteurs étatiques, alors évidemment les services spécialisés, bien sûr, et tout ça apparaît. Tout ce que je viens de vous dire, c'est tous ces acteurs apparaissent dans un rapport de 2009 sur la guerre de Géorgie, un rapport de la société de consultants Graylogic, que vous pouvez trouver en ligne, tout est open, hein, je le répète une dernière fois. Troisième niveau, le niveau logique. Lors du pic des attaques, contre la Géorgie, on a repéré jusqu'à 6 botnets, dont parlait Philippe tout à l'heure. C'est les machines infectées qui attaquent les autres. Et chacun ayant d'ailleurs son propre serveur de contrôle. Et on a pu constater une coordination des salves successives de ces attaques avec les événements réels. C'est assez intéressant. Et ce qui a laissé peu de doutes à l'époque par le pilotage par les états-majors russes. Et on a pu constater différentes phases. Tout a commencé par des attaques en déni de service de 54 sites géorgiens, communication, finance, gouvernement. Puis, ça s'est poursuivi par des exfiltrations de sites pour la propagande, des exfiltrations d'informations pour le renseignement, pardonnez-moi. Et puis, ça s'est poursuivi, classique, par des défigurations de sites pour la propagande. Bon, je n'ai pas besoin de commenter ce qui est illustré, vous voyez ce que j'entends par défiguration de site à des fins de propagande, c'est évident. Ainsi, alors, on peut citer le site, par exemple, stopgeorgia.ru, qui a servi de relais médiatique aux actions et qui a proposé en téléchargement un logiciel qui a permis d'associer même les sympathisants aux actions de saturation. C'est-à-dire que dans la nouvelle guerre, les frontières de la guerre traditionnelle sont abolies, puisqu'on associe même, on peut associer les populations, tout le monde même, ici, à des actions agressives. On est dans un niveau au-delà. Au niveau physique, il est simple. Dès le 8 août 2008, des mesures de guerre électronique habituelles sont utilisées par les forces russes afin de détecter par goniométrie les centres de commandement géorgiens, de caler leur destruction, de brouiller les transmissions tactiques. Bon, ça, c'est du classique, là, je n'apprends rien ici. Il y a quelques bombardements d'antennes mobiles gauche qui ont été signalés, mais sans la volonté de détruire physiquement les infrastructures de télécommunication parce qu'elles seront utiles pour l'après-guerre. Plus probablement, alors, ce qu'on a constaté aussi au niveau physique, c'est que tous ces plans d'attaque ont sans doute, les plans russes, en disant de reconquête militaire de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, ont sans doute été montés en 2005. Ils ont sans doute été montés en 2005 et la décision de ne pas toucher aux infrastructures énergétiques en Géorgie s'est aussi manifestée dans le cyberespace. tout en laissant planer la possibilité qu'on pouvait prendre le contrôle informatique de certaines infrastructures critiques, en particulier de l'oléoduc Bakou, Tbilissi, Séhan. Et juste à ce propos, la cybermenace sur l'oléoduc s'est accompagnée aussi de bombardements de proximité bien réels, mais sans doute plus destinés à montrer la vulnérabilité. Et à ce sujet, il y a un fait qui est à noter, que nous souhaitons noter. C'est Philippe qui est l'inventeur de cette information, si je puis dire, de cette corrélation, vous allez voir. L'attaque qui a été menée le 5 août 2008, il y a eu une attaque informatique qui a été menée le 5 août 2008, une attaque sur l'oléoduc, à proximité de Refahin en Turquie, et qui a été attribuée au PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. En réalité, alors, aucune trace de bombe n'a été relevée, et pourtant cet oléoduc a été attaqué. En réalité, cette attaque aurait été provoquée par une attaque informatique très sophistiquée. On est en 2005. On est en 2008. On est une attaque informatique très sophistiquée sur les services systèmes de contrôle et de sécurité de l'oléoduc, d'où une surpression et une explosion, comme l'attestent 4 témoins anonymes 6 ans plus tard. Et ce fait, ce qu'on veut montrer, c'est que ce fait se serait donc produit, on est en 2008, 2 ans avant la fameuse attaque Stuxnet. Vous vous souvenez, Stuxnet, enfin, c'est l'attaque, vous savez, qui est conçue par la NSA, pas tourne autour du pot, contre les centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium. Attaque qui est souvent présentée, Stuxnet, c'est dur à dire, comme la première opération d'ampleur contre des systèmes industriels. Et effectivement, il nous semble, Philippe, je lui rends le... que l'attaque contre la Géorgie, 2 ans avant, avait déjà témoigné d'une attaque contre les sites industriels. Niveau géographique. Classique, le niveau géographique. La carte est classique aussi. La strate géographique dans cette guerre de Géorgie, dans cette cyberguerre et en Géorgie, est impactée de deux façons. Dans un premier temps, les serveurs hébergés en Géorgie sont agressés par plusieurs dizaines de milliers de machines, et les contre-mesures de blocage périmétrique des adresses russes vont s'avérer totalement inefficaces. Ne serait-ce qu'à cause des capacités d'usurpation des attaquants et le choix côté géorgien de ne pas isoler complètement le pays des communications avec ses alliés occidentaux en particulier, donc de laisser la porte ouverte, évidemment, à toutes les attaques. Dans un deuxième temps, quelques sites, president.gov.ge, peu importe, ont été transférés aux États-Unis, mais ça s'est fait trop tard pour être efficace. Niveau temps. Alors, le niveau temps, c'est... Voilà, vous avez finalement le... On a peut-être dû la mettre avant, la chronologie, finalement, des événements. Et cette chronologie des événements montre qu'une cyberguerre se peaufine d'abord dans des escarmouches très variées pour à la fois brouiller les pistes et recueillir la cartographie des faiblesses des systèmes de l'adversaire. Et ici, l'Institut de recherche US Cyber Consequence Unit a découvert que les graphiques de propagande utilisés pour les défigurations de sites contre la Géorgie avaient été préparés 2 ans avant les attaques réelles, et le niveau temps dont je parlais, autrement dit, le temps du renseignement et de la planification n'est pas celui de l'action cybernétique, ce qui est finalement très pratique aussi. Et l'action cybernétique s'est calée, finalement, dans l'exemple géorgien, sur les actions de guerre classiques. Dernier niveau, le niveau cybersécurité. Alors, juste pour vous montrer que tout ça est quand même extrêmement fragile, on est dans l'ultra fragile parce qu'il y a de la fibre. La résilience des systèmes d'information de la géographie s'est avérée extrêmement faible pour résister à des attaques considérées aujourd'hui comme de moyenne intensité. Et pire que ça, le 28 mars 2011, une dame de 75 ans qui cherchait à récupérer du cuivre pour le revendre a malencontreusement coupé avec sa bêche, non pas sa scie, mais c'est l'image de propagande, elle a coupé avec sa bêche un câble sous-marin près de Tbilissi, la capitale géorgienne, qui a causé une panne majeure de l'Internet en Arménie. Le pays limitrophe. Autrement dit, c'est juste un exemple pour montrer qu'on est dans l'ultra fragile. On a l'impression qu'on est dans le cyber très, très élaboré, mais finalement, une mémé de 75 ans arrive à vous planter un pays au niveau informatique. Je te repasse la parole pour le dernier exemple.
Donc l'exemple de la guerre du chiffre. La guerre du chiffre elle-même, ça mériterait un colloque singulier. Les historiens de la guerre du chiffre sont assez rares. J'en fais un petit peu partie maintenant, mais c'est une guerre mondiale permanente qui est très active. Je ne vais pas parler ici, il y a un exemple intéressant dans les documents Ciotène qui est un piège mathématique. La NSA est parvenue à faire normaliser en mars 2007 quelque chose qui était mathématiquement piégé. Donc c'est assez remarquable, c'est un piège sémantique, c'est assez rare. Mais je vais vous parler d'une opération qui est rendue publique le 19 février de cette année. C'est un vol massif de clés cryptographiques, toujours par la NSA et son homologue britannique, qui était très actif, le GCHQ, chez la société Gemalto. Vous avez ici la stratégie contre le chiffre de la NSA, c'est très très violent. Donc pour cette attaque elle-même, les documents emploient le terme de, c'est pas de vol, de récolte. On peut la qualifier de guerre, non seulement à cause de ses protagonistes, mais aussi et surtout parce que ces attaques vont toucher à la souveraineté des États visés, et donc en particulier à leur souveraineté dans le secteur des télécommunications. Et certains des spécialistes y voient l'une des plus importantes affaires révélées par les documents Snowden, notamment en raison de ses conséquences sur la liberté de communiquer. Alors je reprends mon modèle. Donc voilà la guerre du chiffre, ça c'était l'article qui a dévoilé les documents. Donc on reprend les documents. Donc les documents sur les personnes non connectées. L'impact sur cette couche ne peut pas être directement relié à cette attaque particulière. On peut noter cependant, mais c'est une autre histoire, que dans la lutte contre le trafic de drogue en Afghanistan, qui finance d'ailleurs les talibans, un document qui a fuité récemment annonce que le renseignement d'origine électromagnétique a remplacé le renseignement d'origine humaine. La liste des cibles, visées en particulier par les drones, a été obtenue grâce à une plateforme d'écoute des mobiles, au point d'ailleurs que les dirigeants talibans, comme d'autres aujourd'hui, ont donné à leurs combattants l'ordre de cesser d'en faire usage, en faisant ainsi de ces combattants des personnes non connectées. Alors sur les personnes connectées, c'est une petite planche que je ne vais pas détailler, mais qui montre que la récolte des clés, c'est les clés KI, là elles sont en rouge, elles permettent sans effort calculatoire important la mise au clair de l'ensemble des communications interceptées. Donc c'est ça, c'est la petite clé qui permet d'écouter ce que les gens se racontent. Et donc on cite un document Snowden explicite des récoltes massives de clés de janvier à mars 2010, avec les volumes associés pour un certain nombre d'opérateurs. Donc, ça se voit pas très, si on les voit ici. Donc, c'est des opérateurs qu'on trouve en Serbie, en Islande, en Inde, en Afghanistan, au Yémen, en Iran, au Tadjikistan et en Somalie. Donc, on a un certain nombre d'éléments. Alors, qu'est-ce qui a été utilisé pour mener cette attaque-là ? Alors, je repars. Bon, je ne sais plus si c'est là. C'est pas très grave. Donc, ce qui a été utilisé donc, dans la couche logique, on a un document très complet des services britanniques qui décrit en creux l'attaque informatique utilisée. Donc, il s'agit de voler des clés. Alors, ça commence par une connaissance des cibles par les réseaux sociaux. Les gens sont très bavards aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en particulier les gens qui travaillent dans ces entreprises de sécurité. Deuxième étape, c'est l'interception des messageries privées des cadres. Troisième étape, c'est de l'hameçonnage de l'intrusion dans les serveurs bureautiques de la société, à partir de ces cadres-là. Et puis, ce document, qui est assez complet, va même proposer d'automatiser la récolte en développant une plateforme d'interception dédiée. Au niveau de la couche, donc vous voyez ici on a ici les endroits où les gens, les messageries utilisées par les personnes qui ont servi à ce vol de clés massifs. Donc, dans la couche physique, une page datée de 2011, vous voyez, c'est cette page-là, explique une solution de partage. Donc, en fait, c'est des clés qui sont partagées par les sociétés avec les opérateurs téléphoniques. Donc, c'est des clés qui permettent de personnaliser les cartes SIM qu'on met dans nos téléphones portables. Donc, parfois, les personnes utilisaient des moyens protégés avec leurs opérateurs, en particulier des clés USB chiffrantes. Et donc, ce document-là parle d'une attaque sur ces clés-là. Alors, on ne sait pas si elle a réussi. On peut estimer qu'elle a dû réussir, parce que la NSA a beaucoup de moyens. Donc, ça, c'est une attaque physique. Dans le document qui fait mention de l'atelier de piégeage de la NSA, on a un autre exemple intéressant. C'est que cet atelier a permis un implant dans un matériel cœur de réseau qui était à destination de l'opérateur de télécommunications de la Syrie. Et ce que dit le document, c'est que l'ensemble des communications mobiles en Syrie ont pu être écoutées grâce à ce piégeage. Donc, vous voyez, c'est des exemples très précis de cette guerre du chiffre qui est une guerre permanente. Donc, on voit ici d'autres pays qui apparaissent. Alors, dans la couche géographique, beaucoup de documents, beaucoup de données géographiques apparaissent dans les documents qui décrivent une attaque qui est fortement décentralisée. On nous parle de la Somalie, du Koweït, de l'Arabie saoudite, de l'Iran, de Bahreïn. Et on nous parle aussi des cadres et consultants de Gemalto, qui est une société multinationale, comme beaucoup aujourd'hui, qui est implantée dans 46 pays et qui a des employés de 116 nationalités différentes. Donc ces employés-là ont été ciblés, on voit ça dans un document, à la fois à Prague, à Singapour, à La Ciotat, à Dubaï, en Thaïlande. C'est pour montrer la dimension totalement décentralisée de ce type d'attaque. Et d'ailleurs, il y a la liste, on trouve dans les documents Snowden, la liste d'une trentaine d'implantations de la société Gemalto sur 4 des 5 continents qui vont être ciblées particulièrement pour cette attaque-là, ce vol de clés. En termes de temps, dans l'attaque dont Gemalto est victime, le facteur temps est très important pour une société, notamment quand l'attaque est rendue publique. Elle a été rendue publique au mois de février, car il faut limiter très vite les emballements médiatiques. Donc ça, c'est très important. Alors, c'est un exemple assez intéressant. La communication de crise de Gemalto a été à la fois rapide et efficace. Donc ça montre que cette dimension de temps, elle n'est pas uniquement au niveau des attaquants, elle est aussi au niveau des gens qui doivent se défendre quand les choses sont rendues publiques. Enfin, la dernière chose, c'est en termes de couche de cybersécurité, une des planches du GCHQ, je crois qu'elle est là, c'est celle-là, qui laisse assez peu de doutes sur l'ampleur de l'attaque. Donc on nous explique que la société ZRN, on voit tout le réseau de Gemalto a été transpercé. Donc ça, c'est une planche assez embêtante, on ne sait pas vraiment comment. Donc on ne peut pas aller plus loin dans l'analyse de ces documents-là, mais on imagine que pour une société, Gemalto, c'est le numéro 1 de la carte à puce, il y a tout un travail à faire pour durcir le système d'information quand on voit ce genre de planche. Donc je repasse la parole à François pour conclure sur ces choses.
Je conclue parce que le temps nous est déjà compté. Alors, l'approche qu'on a voulu vous présenter, un petit peu aride, j'en conviens bien, pour démarrer comme ça cette journée, il nous semble que nous avons essayé de dégager quelques perspectives et hypothèses, moi on voudrait le faire partager avec vous, quant aux guerres actuelles et aux guerres futures. Alors, pour la petite histoire, Philippe et moi, nous préparons un ouvrage sur les guerres du futur. Voilà. Et évidemment, la dimension cyber sera très importante. Toutes les guerres actuelles et toutes les guerres futures auront une dimension numérique. C'est bon, ça devient même une tarte à la crème de le dire et de le dire comme ça ici. Premier constat que je souhaiterais partager avec vous, c'est le constat sur l'identité et la localisation géographique de l'attaquant. Parce que vous avez vu, pour la Géorgie, c'était pas sûr que les Russes. Bon, aujourd'hui, on est quand même. Puis ils sont arrivés presque à le dire eux-mêmes, donc heureusement. Mais là, pour Gemalto, s'il n'y avait pas eu la révélation. La cyberguerre qui précède toute guerre aujourd'hui et pour l'attaque dont l'exemple qu'a pris Philippe, on est aussi dans la cyberagression et dans une dimension de cyberguerre. Le premier constat à faire, c'est sur l'identité et la localisation géographique de l'attaquant. S'il n'y a pas de révélation, s'il n'y a pas un scoop médiatique ou un Snowden, l'attaquant restera dans l'obscurité. On me dit, la guerre de la cyberguerre, c'est une guerre où on ne sait pas qui est l'attaquant, voire même on ne sait pas qui est l'attaqué, et l'attaqué ne sait pas qui est attaqué, ni même comment il est attaqué. Donc la dimension géographique là-dedans, elle demande quand même à être drôlement étudiée. On a vu que dans cette nouvelle forme de guerre, l'attaquant est toujours dans l'obscurité. Ou alors, il y a une grosse révélation et tout d'un coup, il ne l'est plus, effectivement. Mais c'est presque l'accident, on a envie de dire. L'objectif direct et l'objectif particulier visé par l'attaquant. Là encore, la cible et les dommages souhaités restent souvent très obscurs et très flous. Peut-être pas pour l'attaquant, heureusement, mais en tout cas pour le restant du public, si je puis dire. Les moyens de l'attaquant, eux aussi, sont classiquement gardés secrets ou tout au moins discrets, ça c'est normal. Et enfin, l'objectif global, autrement dit, la finalité politique et stratégique de l'attaque, et là encore, elle est extrêmement ambiguë. La cyberguerre, il nous semble, enfin, c'est la guerre fantôme, d'une certaine manière. C'est une guerre qui est apparemment, et c'est là que tout est... C'est une grande erreur de penser que c'est apparemment sans dimension géographique. En fait, elle est à forte, très forte dimension géographique, mais sans dimension spatiale apparente et presque sans dimension temporelle, encore que. Deuxième constat, la cyberguerre, c'est désormais la phase préalable de toute guerre. Elle pourrait même devenir la guerre elle-même. Et finalement, la lutte contre le terrorisme que nous connaissons a sans doute fait entrer le monde dans une cyberguerre permanente. Vous avez vu, Gemalto, la Syrie, l'Irak, oui, pas bien dur à faire le lien, quand même, pas non plus. Bon. La cyberguerre concerne également les guerres asymétriques. Je cite Gilles Kepel, qui nous écrit « Al-Qaïda est devenu obsolète ». C'est le modèle Daesh qui l'a emporté. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec Gilles Kepel, hein, on ne va pas rentrer les doigts. En raison de leur dextérité dans le maniement des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et de leur maîtrise des systèmes de phishing, à partir des consultations sur YouTube, ce sont les combattants de Daesh qui mondialisent l'épouvante. Or, le net a pour particularité d'abolir entièrement les frontières, bon, on peut discuter, et de foudroyer tous les repères spatio-temporels. Cette abolition du temps, déjà portée par l'immense régression wahhabite, peut produire des effets sidérants. Des combattants comme ceux de Daesh, capables à la fois de prendre au mot les fatwas du 8e siècle et de recourir aux technologies les plus sophistiquées, font exploser tous les cadres d'analyse. Fin de la citation. On peut discuter, il y a matière à discussion, mais il y a quand même matière à réflexion, je dirais, avant la discussion. Troisième et dernier constat, et on en termine là. De nouvelles formes d'affrontements cybernétiques sont déjà prévisibles à l'avenir, puisque déjà, des robots logiciels s'affrontent dans le domaine de la finance. Philippe vous en a parlé, de ces robots liés au High Frequency Trading. Des drones, et ça c'est la planche qui illustre la conclusion, des drones qui sont des robots télépilotés aujourd'hui sont de réels vecteurs de projection de puissance. Alors bien sûr, le drone est vulnérable, certainement, mais sans coût humain. Et si aujourd'hui la cyberguerre ne remet pas fondamentalement en cause aujourd'hui les grands affrontements géopolitiques et géostratégiques, il nous semble que cela pourrait être très vite dépassé. La cyberguerre a en effet, c'est notre autre hypothèse qu'on ne développera pas ici, elle a en effet sa dynamique propre. Et par exemple, dans un futur très immédiat, hein, ce n'est pas du tout de la science-fiction, l'autonomie des robots tueurs, qu'il s'agisse de robots logiciels, des robots logiciels du HFT dont on parlait tout à l'heure, ou qu'il s'agisse des drones, parce que le drone n'est jamais qu'un robot télépiloté. Cette autonomie des robots tueurs pourrait, alors évidemment, à un horizon qui est difficilement prévisible, on ne va pas faire de la boule de cristal ici, mais cette autonomie pourrait bouleverser non seulement la géographie et le temps de la guerre, mais plus largement l'art de la guerre, il n'y a même plus d'art de la guerre là-dedans, et la guerre elle-même. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Désolé pour avoir, je pense, dépassé largement le temps. Merci à vous.
Je crois que vous êtes tout à fait à l'heure. Je propose, on attend pour discuter ou bien on discute tout de suite. J'ai deux questions qui pressantes et donc j'aimerais les énoncer tout de suite. J'ai un petit problème avec l'expression cyberguerre pour une raison simple et puis ça apparaît dans votre exposé à tous les deux. La guerre est tout de même un conflit violent entre politiques. La cybernétique est un des moyens de ces conflits violents. Vous pourriez parler de cyberguerre si la violence physique disparaissait et si on pouvait imposer sa volonté à l'ennemi par la cybernétique exclusivement. Alors, première question, est-ce que c'est envisageable? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut répondre à la deuxième question que j'aimerais vous soumettre. De deux choses l'une, ou bien les ennemis potentiels, virtuels, sont, disons, d'un niveau de développement équivalent, je ne dis pas égal, mais équivalent. Dans ce cas, ils vont l'un et l'autre développer la cybernétique au service de la guerre, et donc on entre dans la dialectique du blindage et de l'obus, ou bien ils sont de niveaux très différents, et dans ce cas, le plus faible a-t-il des recours? La réponse étant oui, enfin ce que l'on appelle, par une expression assez curieuse, la guerre asymétrique. Et donc, est-ce que dans votre problématique, vous introduisez ces trois considérations, enfin, en quoi c'est de la guerre, en quoi il y a dialectique et en quoi il y a parade. Voilà, alors, comment procède-t-on? Qu'est-ce que vous préférez, répondre tout de suite ou y a-t-il d'autres questions pressantes?
On peut donner la parole.
Juste pour le premier aspect, donc, qui n'est pas le plus facile non plus, puisque j'utilisais dans un certain nombre d'écrits le terme de cyberconflit. Moi, on me l'a reproché aussi parce qu'on m'a mis un conflit, il faut que ça soit déclaré. On a un petit faible pour un document de 1999 qui est La guerre hors limite. Ça a été écrit par deux colonels chinois. Ça revisite un peu l'art de la guerre de Sun Tzu à l'ère moderne. Et donc, eux-mêmes, ils ont fait un tableau où, effectivement, ils montrent que tout est guerre. Donc, c'est un peu... On va un peu... C'est probablement pas bon, mais ils disent les trois types de guerres. Ils disent militaires, supramilitaires, etc. Non militaires sont des guerres bien réelles, non des métaphores ou des descriptions. Donc, c'est une approche un peu particulière que... Les guerres de type militaire sont toujours des guerres traditionnelles et classiques qui font appel aux armes. Les différents types de guerres appartenant à la catégorie non militaire n'ont rien d'exceptionnel en tant qu'affrontement, mais en tant que la catégorie non militaire, etc. Mais en tant que guerre, elles sont une nouveauté. Donc ils ont introduit ça comme des concepts nouveaux. Les guerres supramilitaires se situent entre les deux. Voilà un peu l'approche de nos deux colonels chinois. Et ils y mettent par exemple la guerre psychologique, la guerre du renseignement, etc. Donc... On a essayé un peu de... C'est vrai qu'on a la facilité consiste à utiliser le terme de cyberguerre pour couvrir un peu tout ça. La guerre du chiffre que j'ai bien analysée, que je connais bien, est effectivement une guerre souterraine. Elle a permis, par exemple, sur les deux dernières guerres mondiales, de raccourcir... Et des choses n'ont été révélées que 20 ans après. Hein, l'affaire de Bletchley Park, on l'a connue 20 ans après. Alors aujourd'hui, il y a des films, des choses comme ça, ça commence à être bien connu, mais c'était quand même un facteur de raccourcissement de la guerre, le déchiffrement de la machine Enigma allemande. Tous les historiens reconnaissent aujourd'hui que ça raccourcit la guerre d'un an et demi, et donc c'est un élément qui n'a été révélé que 20 ans après. Donc cette guerre du chiffre, pour moi, est une véritable guerre. Mais effectivement, elle est menée par des spécialistes et l'objectif, c'est que ça ne transparaisse jamais. Et là, les révélations Snowden sont quand même assez embêtantes pour le renseignement américain. Ça n'aurait pas dû sortir. Mais c'est vrai que c'est une facilité d'utiliser le terme cyberguerre pour couvrir un champ aussi vaste. Mais je pense qu'il y a vraiment un continuum et c'est très difficile. Les limites sont difficiles.
Je complète. Absolument. Tout à fait d'accord. Votre question est effectivement une excellente question. Pour tout vous dire, on a enlevé la partie définition de notre présentation orale. Elle est dans les 27 pages. Je suis en train de la reprendre. Elle est dans les 27 pages du papier écrit. Vous avez bien entendu. Il y a une vraie interrogation sur définition et sur tout est cyber. Quoi. Vous m'avez entendu. J'en ai même abusé en cyberagression, cyberpuissant, cyber, etc. C'est extrêmement facile et très flou, effectivement. Première chose. Deuxième chose, on n'est pas, ni Philippe ni moi, je le sais, on en a longuement discuté, on n'est pas des tenants et des admirateurs ou complètement de nouveaux gourous que sont nos deux colonels devenus généraux chinois de l'armée de l'air chinoise qui ont écrit « La guerre hors limite ». Pas du tout. Il y a beaucoup de... on pourrait faire un colloque entier sur la guerre hors limite et peut-être le côté... désinformation qu'il pourrait y avoir dans ce bouquin quand il est sorti alors dans sa version anglaise en 99 je crois et puis plus récemment en 2006 me semble, ah, c'est ça, dans sa version française on pourrait largement parce que là aussi c'est pas clair hein, je te dis pas que je te dis mais je ne suis pas sûr que mais je vais quand même te bon, bref, c'est très chinois oui. Alors on n'appuiera pas tout notre raisonnement très loin sur cet ouvrage. Sauf que derrière ça, et même avant la guerre hors limite, on est obligé, si vous voulez, enfin on est obligé. Finalement, on adopte le terme que les autres adoptent pour parler quand on parle de cyberguerre. Parce que je reprends un document, la cyberguerre avec le mot de cyberguerre dès 1993, les États-Unis. et le Department of Defense, plus particulièrement le JCF, le Joint Chiefs of Staff, ont défini un concept de guerre de l'information, l'information warfare, et puis Libiki, dont tu as parlé, l'a repris ensuite. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il est question, je reprends le bouquin de Clark, de cyberwar. Et Clark, qui écrit son livre Cyberwar, The Next Threat to National Security and What to Do About It, c'est sorti chez Collins en 2010. Clark, qui parle de cyber. Et les Américains, tous les Américains des États-majors parlent, et puis leurs alliés, bien sûr, parlent de cyberwar, de cyberguerre. Clark, dont je parle, ce n'est pas un auteur. Il est le coordinateur national pour la sécurité, la protection et les infrastructures et le contre-terrorisme au sein du Conseil national de ce Conseil de sécurité nationale des États-Unis. En tout cas, il l'a été entre 1998 et 2003. Donc, si vous voulez, vous avez raison, cyberguerre, est-ce que vraiment le terme de cyberguerre peut s'appliquer à une guerre qui n'a pas de traduction violente, agressive, immédiate, entre guillemets? On peut se poser la question. Nous, on l'utilise effectivement par facilité, presque, parce que même voilà, à un niveau officiel, je dirais, de l'autre côté de l'Atlantique, et pas seulement, enfin, de tous les côtés, on l'utilise aussi. Maintenant, en France, quand on utilise le terme de cyberguerre, Philippe a parlé d'une expérience dans un colloque ou une présentation. Effectivement, entre les différents services officiels français, qui s'occupent de sécurité, etc., l'approche n'est pas forcément la même. Certains ne souhaitent pas parler de cyberguerre, refusent le terme, d'autres l'acceptent. Cyberconflit, effectivement, c'est plus noyant, parce que c'est moins militaire que cyberguerre. Ce que nous avons aussi, pour compléter ma réponse, puis je reviendrai à votre deuxième question, qui est tout à fait là aussi légitime, pour compléter, je dirais que l'exemple de la Géorgie, ce qu'on a voulu aussi montrer avec l'exemple de la Géorgie, c'est que on part de quelque chose qui n'est pas effectivement guerre violente. On parle d'attaque une semaine avant l'attaque du début du mois d'août 2008, de l'attaque blindée, si je puis dire, et les bombardements. Il y a eu effectivement une semaine complète de matraquage cyber, quelque chose, sur les populations, sur les états-majors géorgiens, sur tout ce que vous voulez, etc. Et derrière ça, il y a eu une guerre. Effectivement, une guerre telle que traditionnellement on se la représente et on la connaît, avec des bombes, avec des populations, avec des civils, des militaires attaqués, etc. Ce qui, il nous semble que, et c'est un petit peu notre angle d'attaque, qu'effectivement on est rentré dans. Alors il y a d'autres termes, on parle même d'ultra-guerre maintenant. On est entré déjà dans une phase où la distinction civile et militaire est encore plus floue qu'elle ne l'était déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les bombardements stratégiques et autres. Et que tout est guerre, quoi. La semaine d'attaque informatique avant l'attaque sur la Géorgie, c'est déjà de la guerre. Et en plus, ça a été préparé 2 ans avant. Les plans, maintenant, on le sait, ont été préparés 2 ans avant. Et sur votre deuxième question, bah oui, on est dans effectivement le blindage, l'obus et la cuirasse. Deux pays équivalents, ben ça va être à celui qui va chercher à maîtriser la technologie qui lui donnera quand même le plus équivalent. Et il y a quelque chose qu'il faut, il y a deux choses qu'il faut suivre là, dans cette affaire pour les années à venir. C'est le fait que deux sociétés seulement au monde, comme l'a dit Philippe, maîtrisent la technologie des fonderies de silicium. Voilà. Et c'est les pays qui contrôleront aussi ces industries qui seront dominants par rapport à des pays équivalents en technologie. Le plus faible a-t-il des recours? Ça, c'est ton truc. Oui.
Alors, juste un petit mot sur les armes informatiques. Bon, sur les définitions, moi, on a un modèle singulier en France. On a séparé les organismes qui s'occupent de défense des systèmes d'information, de SSI, classiquement, sécurité des systèmes d'information. On n'a jamais parlé en France de sécurité informatique ou de sécurité de l'information. Ça, c'est un gros problème dans les négociations internationales. Les Chinois et les Russes parlent de sécurité de l'information. Nous, on parle de sécurité des systèmes d'information. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il y a un modèle de séparation en France entre attaque et défense, puisque l'attaque est l'apanage des services secrets, c'est dans le livre blanc. Et on est un des seuls pays à avoir séparé les choses. La NSA fait aussi de la protection des systèmes d'information. Donc si on prend les armes informatiques aux États-Unis, qui est le pays cyberdominant peut-être avec les Chinois, effectivement, il y a eu trois phases. Une première phase où ils se sont rendus compte que leur propre système duo privé était mal protégé. Donc il a fallu les protéger. Mais maintenant, ils sont dans la phase, et c'est très clair, hein, j'ai assisté à un certain nombre de conférences là-bas, même des séminaires fermés, où ils sont en train de développer l'aspect kinétique des armes informatiques. C'est-à-dire qu'une arme informatique doit avoir des effets qui tuent, des effets explosifs, des effets visibles. Donc c'est la phase actuelle de développement des armes informatiques, et ça c'est une grande nouveauté. C'est pour ça cette affaire géorgienne avec le sabotage du pipeline avec des moyens informatiques en rentrant par les caméras vidéo. Je crois que l'histoire est vraie, hein. Elle a été racontée par des témoins quelques années après. C'est ça la grande menace aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des infrastructures vitales ou critiques peuvent être la cible d'armes informatiques et qui ont un effet visible. Hein, donc Stuxnet aussi a montré ça. Et donc c'est un peu différent, parce que j'allais dire l'arme traditionnelle du cyber, c'était le renseignement, l'espionnage. Donc ça c'est de tout temps, et effectivement l'espionnage numérique a beaucoup plus aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable que l'espionnage traditionnel, parce que d'un coup d'un seul, quand vous arrivez à avoir tous les documents de l'ennemi, c'est quand même plus ou du concurrent, c'est plus intéressant. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est le sabotage. C'est-à-dire qu'on rentre dans une phase où on va avoir des vraies armes informatiques qui vont aller dans du sabotage. Donc, est-ce que c'est des armes qui sont à la portée, j'allais dire, des faibles dans une guerre asymétrique? Oui, c'est là où est le problème. C'est-à-dire qu'un char d'assaut ne peut pas être entre les mains de tout le monde, mais un programme informatique, c'est proliférant. Vous trouvez sur Internet de quoi construire aujourd'hui, de quoi, je ne sais pas, faire... même sur la voiture va être connectée, il y a beaucoup de faiblesses dans la voiture connectée, donc vous pourrez saboter une voiture pour envoyer la personne dans le décor. Donc on est dans cette guerre asymétrique où, en particulier dans le cyber, les gens qui n'ont pas beaucoup de ressources ont toujours la capacité d'utiliser des programmes malveillants. Alors ça demande quand même un certain degré de connaissance, mais c'est surtout ça le grand risque dans la guerre asymétrique.
Merci pour toutes ces réponses. Je crois qu'il faut passer. Je suis désolé. Enfin bon, peut-être si nous avons le temps en fin de matinée, on reviendra à la discussion. Donc je donne la parole à mon collègue Loucher.
Merci. Je peux vous demander une alimentation électrique.
Regardez, là, j'imagine. Vous me posez une colle, moi. Tu peux. Voilà. N'oubliez pas le micro, s'il vous plaît.
Heureusement, j'avais vidé le verre. Où est-ce ? Voilà. Bon, je commencerai. On verra ça. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, je vais être beaucoup plus terre à terre, si on peut dire. Le sujet étant imagerie aérospatiale, géographie, renseignement. Je ne parlerai pas de cyber, hein, pas du tout de cyber, mais de choses beaucoup plus classiques, j'allais dire, et je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose à beaucoup de monde ici, vu le niveau des débats. Un des aspects essentiels de ce que l'on appelle en géographie la photo-interprétation ou télédétection, ou encore imagerie aérospatiale, mais qui est peu examiné dans les ouvrages académiques, c'est l'imagerie à finalité de renseignement. C'est quelque chose qui est un petit peu en dehors des programmes universitaires. Et lorsque l'on entend renseignement, on comprend tout de suite espionnage, bien sûr. Alors, il y a d'abord une clarification de vocabulaire qui est indispensable. Que signifie espionnage? C'est la collecte de données, la reconnaissance, le renseignement, ce qu'on appelle en anglais « intelligence ». Et pour cette « intelligence », ce renseignement, nous avons deux modes classiques. On vient de les évoquer à l'instant, ce que en anglais on appelle le « human », donc l'intelligence d'origine humaine, donc le renseignement d'origine humaine, c'est-à-dire quelque chose qui est soumis à erreur, à manipulation, à fiabilité assez faible, à exagération, à mensonge, mais aussi à retournement, intoxication, retournement d'espions, etc. Donc une fragilité intrinsèque de ce qui est le human. Deuxième mode d'investigation, le SIGINT, donc le renseignement d'origine électronique, donc des messages codés ou cryptés qui sont à décrypter. On a évoqué, sans le dire, l'épisode d'Alan Turing et le magnifique film qui vient de sortir là-dessus. Donc le décryptage, c'est toujours lent, et on se rappelle comment ça se passait pour Enigma. Il y a un troisième mode qui est l'IMINT, donc le renseignement d'origine image. Donc à partir d'un document photographique, et le document photographique a par rapport aux documents d'origine humaine ou documents d'origine électronique quelques avantages. D'abord la fiabilité, ensuite l'absence de décryptage, il suffit simplement d'interpréter. Bon, il est sûr que interpréter la photo n'est pas interprétable immédiatement lorsqu'on n'a pas la compétence, mais il n'y a pas de question de décryptage et on peut difficilement dans ce genre de document avoir des retournements, des mensonges, des escamotages, de l'intoxication, de l'exagération. La photo est vraie, entre guillemets, même si sur les marges, évidemment, on peut toujours déguiser, je me souviens, d'une image, c'était gosse, mais c'était la guerre au Katanga, et il y avait des fougas magistères en carton-pâte et en bidon, et qui étaient cachés sur de fausses pistes d'atterrissage, et qui ont pu tromper un certain temps les gens, mais enfin, ce sont des choses qui sont assez marginales, pourrait-on dire. Donc, l'IMINT, le renseignement à base d'image, est différent de l'imagerie aérospatiale. Pourquoi ? Parce que l'imagerie aérospatiale a des fins cartographiques, le but est cartographique. Alors que l'imagerie à but de renseignement n'a pas les mêmes objectifs, n'a pas les mêmes contraintes, n'a pas les mêmes exigences. Alors je voudrais développer ce cours exposé en trois parties. Première partie, c'est la spécificité de l'imagerie géographique à finalité de renseignement. Quelle est sa spécificité propre ? Pour le cahier des charges, dans cette IMINT, il y a cinq qualités essentielles, je crois, qui sont l'échelle, la discrétion, la sécurité, le filet de l'image, et puis l'acquisition tout temps. C'est quelque chose qui sera évidemment essentiel. Alors je passe rapidement sur ces qualités nécessaires. D'abord l'échelle. La cartographie traditionnelle, lorsque l'on fait de la photographie aérienne, de l'imagerie aérospatiale, c'est pour identifier des objets que l'on pourra qualifier de méga-objets ou de méso-objets, c'est-à-dire des objets qui sont de taille considérable ou de taille raisonnable. C'est, on pourra dire qu'ils vont d'une échelle de n fois 10 mètres à n fois 1000 mètres ou n fois 10 000 mètres. Donc des objets n fois 10 000 mètres ou au-delà, même pour des images météo, par exemple, il faudra raisonner en centaines de kilomètres. Au contraire, l'imagerie à usage de renseignement va s'intéresser aux micro-objets. C'est véritablement quelque chose de beaucoup plus petit. Il est vrai que la frontière est floue entre le méso-objet et le micro-objet. La frontière est floue et nous pouvons avoir des clichés qui sont d'un grand intérêt au point de vue renseignement qui sont d'échelle modeste. Par exemple, une piste d'atterrissage. Une piste d'atterrissage, c'est un objet qui est à la limite entre le micro et le méso. Bon, c'est plutôt du méso. Ça fait 3000 mètres de long, 30 mètres de large. Bon, c'est quelque chose qui est conspicuous, comment dire en anglais, tout à fait évident. Hein, je pense à la guerre des Falklands, on y reviendra tout à l'heure. Mais le plus souvent, les objets qui intéressent l'espionnage sont des objets à très grande échelle. C'est-à-dire qu'on va aller du 10 millième au centième. Sans pour autant négliger, même si c'est quelque chose qui peut être encore plus grande échelle. Par exemple, identifier non pas un avion, mais un type d'avion. Identifier son matricule. Vu de l'espace, un matricule d'avion, a priori, ça ne paraît pas si simple que cela. On y reviendra aussi, mais je me souviens qu'il y a très longtemps, maintenant, il y a bien 25 ans, les Américains avaient écrit, paraît-il, sur le toit du Pentagone, en caractère cyrillique, si vous pouvez, de 50 cm de haut. Si vous pouvez lire ceci, vous n'avez que 10 ans de retard sur nous. Bon, voilà le genre de renseignement qui est véritablement du micro-objet. Maintenant, c'est évidemment, on le verra, quelque chose d'extrêmement courant. C'est le repérage d'un véhicule terrestre, même camouflé, même sous couvert végétal. Et on verra comment l'infrarouge peut nous aider. C'est l'identification d'un homme isolé. Et ça aussi, ce sont des choses qui, passées du domaine du rêve il y a 30 ans, sont maintenant du domaine de la réalité. Après l'échelle, la deuxième qualité, c'est la furtivité ou la discrétion. Alors, furtivité ou discrétion, ce sont deux qualités qui s'appliquent à la fois au capteur et à la cible, évidemment. Moi, je n'examinerai que la furtivité du capteur, hein, parce que sinon on déborderait trop largement de notre propos. Il y a en effet une contradiction dans cette discrétion. Contradiction entre deux objectifs qui sont, premièrement, l'obligation de discrétion. Si on veut être discret, il faut que le capteur soit loin. On ne peut pas se mettre sous le nez de l'objet à photographier. Et puis, c'est l'obligation de la grande échelle. Donc, il faut une prise de vue rapprochée. Comment concilier ces deux exigences contradictoires? Faut-il trouver un compromis? C'est souvent ce que l'on trouve. Ou faut-il trouver des solutions hétérodoxes? Ce sera aussi une autre possibilité. Troisième terme sur le cahier des charges, la sécurité. Là encore, contradiction. Et puisqu'on va parler essentiellement de phénomènes aériens, nous avons l'opposition entre le survol à basse altitude, qui engendre un risque, évidemment, le risque de collision au sol, le risque d'attraper des lignes à haute tension, etc., et le survol à haute altitude, qui fait que les résultats sont moins exploitables parce que la définition est moins bonne. Donc là encore, faut-il trouver des solutions ingénieuses. Quatrième terme sur le cahier des charges, le filet de l'image. Lorsque nous faisons un survol rapide à basse altitude, il y a un défilement de l'image. Par conséquent, cette image va devenir floue. Il y a donc la mobilité du capteur va dégrader la qualité, évidemment. Il faut donc trouver des systèmes. Exemple, lorsque vous avez un avion de reconnaissance qui fait une reconnaissance en transsonique aux environs de 950-1050 km/h à 50 mètres du sol, si vous voulez faire des photos avec des appareils normaux, la photo est totalement inexploitable. Alors on a évidemment des solutions, par exemple, la première solution ici, on le voit, ça c'est un étendard, c'est du vieux matériel, mais les problèmes sont toujours les mêmes. Hein, l'étendard P sur le pont du Foch, ça c'est ce que j'avais fait il y a très longtemps, on sait que c'est un étendard P parce qu'il y a ici ce petit détail qui tue, hein, puisque ça, c'est l'endroit où c'est l'appareil photo avec un miroir qui permet de faire une vue verticale. Hein, ici, c'est donc le phénomène extrêmement classique. Et là-dedans, nous avons des caméras, par exemple la caméra Omera, qui est une caméra qui permet d'avoir des photos parfaitement nettes. Lorsque l'on voit à 50 pieds du sol et à 550 nœuds, on peut avoir des photos parfaitement nettes à 150 pieds d'altitude. Ça a été le cas au Tchad il y a une trentaine d'années, c'est le cas actuellement en Centrafrique ou en Libye. Ce sont des choses qui se font. Cinquième problème du cahier des charges, l'acquisition tout temps. Il faut que nous puissions avoir une acquisition tout temps. Alors tout temps, qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr, on pense à la pluie, à l'orage, à la neige, etc. Mais il faut penser aussi aux conditions astronomiques, c'est-à-dire la nuit. La nuit, c'est la moitié du temps. Or, nous devons pouvoir acquérir une image de nuit. Le Viet Cong l'avait très bien compris en son temps. À quelle époque faisait-on des transits? De nuit et pendant la mousson. Nous avions ces deux effets contre lesquels l'US Air Force était non pas inopérante, mais très handicapée. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième grand point de l'exposé, j'espère pas dépasser le temps, ça va, ce sont les moyens mis en œuvre. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour avoir une image de renseignement? Alors d'abord, c'est la distinction entre ce qu'on appelle le vol tactique, le vol stratégique et le vol spatial. Trois altitudes complètement différentes qui vont exiger des moyens qui ne seront pas les mêmes. Le vol tactique, donc vol au ras du sol, celui qui fait toujours très très peur, on fait un vol tactique en hélicoptère, on sort de là complètement tremblant. Trois avantages du vol tactique, pratiquement indétectable au radar, au sol, parce que l'engin arrive trop tard, trop vite, donc impossibilité de le détecter à temps et d'avoir une réponse, donc évite le feu, le temps qu'on réagisse, l'engin est passé. Troisièmement, l'avantage, c'est l'image à grande échelle, nous avons une image extrêmement détaillée, avec les contraintes que l'on a examinées à l'instant sur le filet. Les inconvénients. Alors les inconvénients sont également triples. C'est d'abord la portée limitée de l'image. Si on vole très bas, on a une fauchée, ce qu'on appelle une fauchée très, très faible. Deuxièmement, c'est l'autonomie de vecteur. Si on vole très bas, on n'a pas une grande autonomie. On ne va pas voler pendant des milliers de kilomètres. Troisièmement, c'est le danger de collision au sol. On a déjà vu cette question. Deuxièmement, les vols à moyenne altitude. Alors les vols à moyenne altitude, ont tous les inconvénients. Parce qu'ils sont vulnérables. On voit arriver à l'avance, donc on peut tirer un missile. C'est quand même gênant. Mais il y a quelques avantages. D'abord, la fauchée est plus importante. On a une surface couverte qui est plus importante. On peut avoir comme protection une protection par des contre-mesures électromagnétiques qui peuvent être utiles et bien efficaces. Je me souviens aussi, en lisant toute la documentation sur la guerre du Vietnam, que sur les fantômes, on accordait autant d'importance sous une aile à l'armement et sous l'autre aile aux contre-mesures électroniques. Et les pilotes savaient très bien qu'il valait mieux avoir la moitié du chargement en contre-mesures électroniques et l'autre moitié en armement pur, plutôt que de l'armement seulement. Ils étaient beaucoup moins vulnérables et beaucoup plus efficaces. Les progrès actuels, évidemment, c'est un changement de dimension. C'est le drone. Bon, je n'insiste pas, on en a vu tout à l'heure, tout le monde les connaît, en voilà un. Avec en particulier les drones que l'on appelle les MAL, c'est-à-dire Medium Altitude Large Endurance, donc altitude moyenne, mais très grande autonomie. Large Endurance, très grande autonomie. Et c'est ce qui semble être actuellement le phénomène le plus marqué. Troisième altitude, les vols stratosphériques et les vols spatiaux. Alors là, nous atteignons une autre dimension avec beaucoup d'avantages. Premier avantage, l'interception quasiment impossible, on ne va pas dire impossible, mais quasiment impossible. La fauchée immense, on a une largeur de prise de vue gigantesque. Et puis l'autonomie qui peut être très très grande dans le cas d'un vol stratosphérique, qui peut être illimitée dans le cas d'un vol spatial, puisque évidemment le satellite navigue sans propulsion. Alors les exemples, nous les connaissons, ça aussi sont des exemples historiques. Où est-il passé? Le voilà, alors le fameux notre ami le Lockheed U2, bon, très classique, avec ses réservoirs supplémentaires, 9555 km d'autonomie, bon, c'est quelque chose qui était magnifique, 29 000 mètres d'altitude. Et puis, lorsque ceci a été insuffisant, puisque alors, le 1er 1960, les Soviétiques ont réussi à abattre un avion de ce type, parce que les missiles pouvaient atteindre cette altitude record, mais parce qu'ils nous ont lancé une batterie de missiles à la fois, et c'est donc l'onde de choc qui a disloqué l'avion de Powers. On a trouvé que la combinaison d'un avion à très haute altitude type U2 et de la très grande vitesse que n'avait pas U2, qui était un subsonique, permettait d'avoir de bons résultats. Et ça a été bien sûr toujours par Kelly Johnson, l'invention de ce magnifique avion, le SR-71 Blackbird, qui a à la fois la très grande altitude et la très grande vitesse, puisqu'il a tenu de Mach 3 et qui a donc servi jusqu'à 1999. Et il paraît qu'il y en a encore deux ou trois qui seraient en service sans que l'on soit absolument sûr. Alors pour les caméras, nous avons bien sûr ceci. Ça, c'est le type de caméra qui était embarqué sur l'U2, sur le loquet U2, avec des kilomètres et des kilomètres de film. On verra combien le mode non plus analogique mais numérique permet de simplifier les choses et non plus avoir des films ultra fins comme du papier à cigarette, comme il avait été fait à ce moment-là. Et je reprends l'U2. Voici un U2 sur la piste d'Edwards avec tout le matériel optique disponible, pas tous à la fois, hein, c'est l'un ou l'autre, mais tous les moyens optiques disponibles sur cet avion pour photographier selon un objectif nommé ou dénommé. Le vol spatial, c'est évidemment un avantage immense, c'est l'interception zéro, c'est la fauchée immense, c'est l'autonomie illimitée, on vient de le voir. Et l'inconvénient, c'est le plan de l'orbite. Lorsque nous avons un vol spatial, le plan de l'orbite n'est pas modifiable. Et par conséquent, c'est gênant, il va falloir modifier l'orbite, ce qui est extrêmement cher ou extrêmement difficile. Mais nous avons actuellement des solutions, et nous savons, voici le Boeing RB-37, navette automatique, qui est resté en orbite plusieurs mois autour de la Terre, qui est revenu sans encombre. On ne connaît pas bien les résultats, évidemment, du domaine défense, mais nous avons là des possibilités futures absolument exceptionnelles. Alors, deuxièmement, les moyens optiques. Quels sont les moyens optiques? Dans les moyens optiques, j'insisterai sur un point qui est le rôle mineur de la géométrie de l'image. L'image que l'on va obtenir en renseignement n'a pas la même géométrie que l'image qui est nécessaire lorsqu'on travaille en géographie de cartographie. C'est-à-dire qu'en cartographie, nous avons besoin d'avoir une image qui soit réelle au point de vue dimension. Nous passons par l'orthophotoplan. Il faut que les dimensions sur l'image soient correspondent trait pour trait aux dimensions réelles. Alors qu'en imagerie, en matière d'espionnage, c'est mineur. La géométrie de l'image n'est pas très importante. Si l'image est déformée, ce n'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est le renseignement que cette image comporte. Deuxièmement, c'est l'importance relative de l'échelle et de la définition. Alors, il faut bien comprendre qu'ici, la différence d'échelle ne correspond pas à une différence de définition. Avec un petit rappel sur la définition, si on peut dire. La définition d'une image, c'est le nombre de points élémentaires qui la composent, soit nombre de grains, soit nombre de pixels, selon que l'on travaille en analogique ou en numérique. La résolution, c'est le nombre de pixels par unité de longueur, ce qu'on désigne par PPP, point par pouce, ou bien DPI, dot per inch. Donc ce sont deux notions qui sont différentes. Et lorsque l'on veut avoir une résolution maximale, on se sert du fameux critère de Rayleigh, sinus θ égale 1,22 lambda sur t. Donc θ étant la résolution, lambda la longueur d'onde de la lumière. En général, on travaille en vert puisque c'est la longueur d'onde maximale du Soleil. Et puis d, le diamètre de l'objectif. Alors comment connaître la définition théorique d'un avion espion? Bon, je parle ici devant un public informé, donc je ne vais pas insister là-dessus. Mais comme c'est évidemment quelque chose de classifié, il y a une solution possible, c'est de considérer Hubble. Alors voici une photographie de Hubble qui a été prise par la navette spatiale Atlantis. Hubble, on l'a su, a le même système optique que les satellites espions Keyhole 11. Donc, à partir de ça, on peut travailler, évidemment. Et on tombe avec un diamètre d'optique de 2400 mm, c'est quand même énorme, hein, un diamètre de 2400 mm, 2,40 m comme objectif, c'est quand même passionnant. Et nous arrivons à une résolution de 5 cm. On a une résolution au sol de 5 cm. Ce qui dit que lorsqu'on peut arriver à lire le matricule d'un avion, ce n'est pas de la fantasmagorie, c'est tout à fait spécial. Alors nous avons bien sûr des chambres photographiques pour cela. Je pense aussi à l'Enviropod. Alors voici le satellite Keyhole. Voici un croquis qui a été fait en 1993. À quoi peut ressembler un satellite Keyhole dans le système. Alors comment va-t-on récupérer les données? Là encore, je fais un rappel historique, pourrait-on dire. Ça, c'est la caméra Omera qui était embarquée. Et maintenant, on les trouve sur Internet. Hein, si vous voulez une caméra Omera qui était embarquée sur les avions de chasse français, ça se trouve sur Internet pour à peu près 50 euros. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça il y a quelques jours sur 50 euros avec le fond de la chambre photographique arrondi, puisque c'est une fente qui se déplace. Et je pensais que c'était inabordable, mais pas du tout. Donc, je vais m'acheter ça pour Noël la prochaine fois. Ce sera absolument parfait. Et les systèmes Enviropod, voilà un Enviropod sur un avion de tourisme à aile haute. Le voilà, il est là sous l'aile. Et avec ça, vous pouvez faire de l'imagerie, bien sûr, aussi bien cartographique que classique, que de l'imagerie d'espionnage. Alors, ces images, comment va-t-on les récupérer? Dans les temps anciens, il y avait un système que l'on peut considérer comme préhistorique, pourrait-on dire, mais on va voir qu'il n'est pas si préhistorique que ça. Ce sont les fameux buckets. Alors, les buckets, c'est la petite capsule qui était dans les satellites espions qui roulent à partir de 1959 et qu'on balançait sur Terre avec des rétrofusées, parachutes, et on récupérait la capsule en plein vol. Et ici, on a un flying boxcar, un Fairchild 117, qui récupère le satellite avec une espèce de fil à papillon à l'arrière. Alors au début, ça marchait très très mal. On réussissait ça une fois sur cinq. Et puis petit à petit, les techniques se sont perfectionnées. Maintenant, on réussit très très bien. Et contrairement à ce que je pensais, je croyais que c'était un système désuet qui ne fonctionnait plus, mais pas du tout. C'est un système qui a beaucoup d'avantages parce qu'au moins on est tranquille. Comme il n'y a pas d'électronique ici, on a un véritable film analogique. Il ne risque pas de tomber chez les copains d'en face. Et si jamais il se perd en mer, eh bien un système qui le fait couler au bout de quelques heures, il coule automatiquement. Donc on n'ira pas récupérer le système. Et c'est un système qui est encore en usage, plutôt que d'envoyer tout cela par moyen électronique, ce qui est évidemment quelque chose de dangereux. Troisièmement, les gammes de longueur d'onde utilisées. Je terminerai là-dessus parce que le temps tourne. Alors, les gammes de longueur d'onde utilisées, on faudra distinguer le spectre visible du spectre optique. Alors, ici, je fais un cours à des étudiants, je suis désolé, devant vous, c'est pas le but, mais enfin, je rappelle quand même. Le spectre visible, c'est entre 0,4 et 0,7 microns, donc c'est quelque chose d'extrêmement petit. Le voilà, c'est celui qui est ici en couleur arc-en-ciel, qu'on a élargi dans le zoom qui est là. Au-delà, nous avons l'infrarouge et l'ultraviolet qui ne sont pas visibles par nos pauvres yeux humains. En revanche, le spectre optique, c'est tout ce qui passe dans l'objectif en matière transparente d'un appareil photographique, en verre. Donc. Et c'est beaucoup plus large, puisque ça va de 0,3 microns, donc à peine moins que du côté petit, mais ça va jusqu'à 14 microns. Donc on a à la fois les UV, plus le visible, plus le proche infrarouge, plus l'infrarouge moyen, plus l'infrarouge thermique. Donc nous avons une gamme de quelque chose qui va beaucoup plus loin ici, vers la droite de cette figure. Alors comment travaille-t-on en imagerie visible? Ce sont des utilisations qui ont été largement employées, par exemple les overflights au-dessus de l'ex-URSS dans les années 55-61 se faisaient au-dessus de la Chine, au-dessus de Cuba, avec de véritables images en noir et blanc et en visible. Et ça a été le cas également pendant la guerre des Falklands en 1982, où la Royal Air Force a eu d'excellentes images de la piste de Port Stanley, celle qui a été bombardée par le Vulcan 607, très bel exploit de guerre, mais ça ne suffit pas. Donc nous avons l'imagerie infrarouge, ce que nous appelons l'imagerie infrarouge. L'imagerie infrarouge, sa caractéristique, c'est surtout de travailler dans l'infrarouge thermique, essentiellement dans l'infrarouge thermique, avec des défauts et des qualités. Toujours pareil, nous sommes pris entre le défaut et la qualité. Alors le défaut de l'infrarouge thermique, c'est l'aspect qualitatif de l'image et non pas son aspect quantitatif. L'image n'a pas le même piqué que nous pouvons avoir dans une image en visible. Et la définition est beaucoup moins bonne. Mais nous avons malgré tout des images tout à fait intéressantes. Alors voici d'abord à gauche en couleur une image en imagerie visible. Vous voyez quoi ? Un sous-bois. Un sous-bois, il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Et à droite, la même image en infrarouge thermique. Tiens, il y avait un bonhomme au milieu. On ne l'avait jamais vu. Il était déguisé comme les légions d'Astérix avec du feuillage. Maintenant, ça ne marche plus. Se déguiser avec du feuillage, ce n'est plus une solution. Ça ne fonctionne absolument pas. Autre image, voici des passeurs qui essaient de franchir la frontière du Rio Grande entre les États-Unis et le Canada. Ils se font repérer, entre les États-Unis et le Mexique, pardon, pour le lapsus. Ils se font repérer immédiatement, évidemment, avec ce type d'imagerie. Et voici le camion équipé de la caméra thermique qui est en train de surveiller la frontière pour voir comment ça se passe. Ça marche de nuit, ça marche de jour. Je dirais que ça marche encore mieux de nuit que de jour. Et regardez les détails. Voilà les petits wetbacks qui sont en train de s'approcher de la frontière et qui essaient de passer. Là, il y a un grillage. Donc, ils essaient de trouver un endroit où le grillage est plus faible, coupé à coups de sécateur. Mais de toute façon, ils sont déjà fichés. Donc, il n'y a aucun risque. Mais également, des imageries de ce type. Bon, vous avez reconnu le Hummer. En pleine nuit, on y voit goutte. Mais ça, c'est une image. Alors, bien sûr, par rapport à une image en visible, cette image est floue. Mais peu importe, j'allais dire, pour le but qui nous intéresse, qu'elle soit un peu floue, n'est pas très important. L'important, c'est de savoir que l'objet est effectivement là. Et puis, il y a l'autre volet de l'affaire, mais je vais peut-être être muet sur ce point, ou presque muet sur ce point, qui est l'imagerie radar. Je ne vais pas développer parce que le temps n'est pas là, mais je vais simplement dire que, contrairement aux autres imageries, qui est une imagerie de type passif, ici, nous avons une imagerie active, c'est-à-dire que pour avoir une image radar, il faut émettre un signal et récupérer le signal. Par conséquent, la discrétion est perdue. Ici, nous perdons de la discrétion, c'est absolument évident. Mais il y a aussi des questions de déformation d'image. Je vous en présente simplement un exemple. La géométrie du terrain sur une image latérale, avec une intensité de l'écho qui va dépendre de la surface topographique. Par exemple, ici, nous avons une ombre de cette montagne qui sera donc invisible pour l'imagerie radar qui est tirée par un appareil qui se trouve latéralement sur le côté. Voici comment ça se passe, avec des déformations d'image également. Vous voyez par exemple ici un SR-71 qui prend une image latérale, un SLAR, qui va prendre par exemple cette fusée sur une base de lancement. Voici l'image réelle de la fusée, voici l'image que va en avoir le radar, déformé à cause de cette prise de vue latérale. Enfin, je n'insiste pas là-dessus parce que sinon je vais aller beaucoup, beaucoup trop loin. Voilà, alors je reviens sur le problème de l'imagerie spatiale. Le plan d'orbite non changeable, on peut très difficilement changer le plan d'orbite. À la rigueur, on peut changer l'altitude et remonter sans trop de dépenses de carburant. Changer l'orbite elle-même, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, extrêmement coûteux, donc que l'on abandonne en général. Et voici un type d'image que l'on peut trouver ici. Il s'agit d'une tour de lancement, d'une base de lancement de missiles en Corée du Nord, qu'on peut avoir à partir de satellites. Vous voyez que c'est... Il faut avoir des images très intéressantes de ce point de vue-là. Voilà, je crois que j'ai dépassé mon temps. J'arrête. Merci.
Merci.